Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le psaume 1, premier psaume, psaume 1, et nous allons lire ce psaume. Peut-être même je peux vous proposer que nous pouvons le réciter parce que plusieurs le connaissent par cœur, je pense. Alors ceux qui ne le connaissent pas, vous lisez, ceux qui connaissent... Vous pouvez le réciter, on peut le réciter ensemble. Alors, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Il n'est pas très long, 6 versets, et nous pouvons apprendre ce psaume. Nous sommes en début d'année. Premier dimanche de l'année, tout le mois de janvier, c'est le mois où les gens se souhaitent les vœux, hein, vous recevez, vous envoyez, et on dit qu'on a tout le mois de janvier pour le faire. Et chaque début d'année revient à peu près la même formule. Je te souhaite tous mes meilleurs vœux de bonheur, hein, surtout les vœux de bonheur. Et si on dit cela de manière répétée et de manière planétaire, j'ose dire, parce qu'un peu partout on dit cela, on cite cette formule, c'est que tous les hommes recherchent le bonheur. Donc je pense que vous êtes d'accord avec ça, et vous aussi, quoi que vous recherchez le bonheur. Et si ce n'est pas le cas, levez le doigt. Hein. Partout... Les hommes recherchent le bonheur, quels que soient les hommes, en quelque lieu qu'ils soient. Et le philosophe Blaise Pascal, des chrétiens, a dit ceci. Donc, il a vécu 39 ans, j'ai regardé, hein, 1623, 1662. Et il a dit, tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous à ce but, ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas, est ce même désir qui est dans tous les deux, accompagné bien sûr de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers ce but de bonheur. Et c'est le motif de toutes les actions de tous les hommes. C'est le motif de chaque action de tout homme, même de celui qui se pend. Il dit, quel que soit ce que l'homme fait, même quand il se suicide, quelque part dans le fond, il y a une recherche d'une situation meilleure. Une recherche, ne serait-ce que d'absence de souffrance, une recherche de bonheur. Et je ne sais pas si vous savez à quoi correspond le 20 mars 2019, mais le 20 mars 2019 a été proclamé par l'Assemblée générale des Nations Unies comme la journée mondiale du bonheur. Donc, retenez cette date, hein. Je ne sais pas ce qui s'y passera, mais 20 mars 2019, journée mondiale du bonheur. J'ai vu qu'il y a même... dans une prestigieuse université américaine, quelqu'un qui est professeur de bonheur. Hein, ça existe, hein, des professeurs de bonheur. Et tandis que les hommes s'évertuent à trouver le bonheur ici ou là, Dieu, lui, affirme avec la plus grande solennité dans ce psaume, « Heureux l'homme, c'est une manière de dire « voici l'homme qui est heureux ». La parole de vie traduit « voici l'homme heureux », ou encore on peut traduire dans d'autres « au bonheur de l'homme hein, ». Ce qu'on, quand on lit ici « heureux, heureux l'homme ». Et donc le titre du message ce matin, c'est « voici l'homme réellement heureux ». Quand nous souhaitons des vœux, eh bien, voici ce que nous devons probablement avoir dans le fond de la pensée, dans le fond du cœur. C'est ce que dit ce psaume ici. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, plusieurs choses que je voudrais partager à partir de ce psaume ce matin. C'est que l'homme réellement heureux refuse le plaisir, ou les plaisirs, on pourrait dire, d'un mode de vie qui tient Dieu à l'écart. C'est ce qu'on voit dans ce passage. L'homme réellement heureux, il refuse le plaisir d'un mode de vie qui tient Dieu à l'écart. « Voici l'homme heureux, dit le psalmiste de la part de Dieu. C'est celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Vous regardez un certain nombre de livres sur le bonheur écrits par des hommes. Ce qui est frappant, c'est que l'on trouve parfois beaucoup de recettes, c'est pas pour le bonheur, beaucoup de choses. Alors, par exemple, passer du temps avec ce que l'on aime, ou apprendre à développer une bonne estime de soi, ou rester optimiste. Ce sont des choses positives à faire. Et ce qui frappe ici dans ce psaume, c'est que le Dieu qui est créateur de l'homme, qui connaît mieux que quiconque de quoi nous sommes faits, il décrit l'homme heureux d'une manière complètement différente. Il le décrit dans un premier temps par ce qu'il ne fait pas. Pas par ce qu'il faut faire, mais par ce qu'il ne fait pas. Ce à quoi il dit non. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas. Donc c'est l'homme qui ne fait pas un certain nombre de choses. Alors, le but n'est pas que le bonheur réside dans un comportement défensif, hein, c'est-à-dire je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne fais pas ceci, alors je suis heureux. Ce n'est pas ce que le psalmiste dit ici. Hein. Mais il dit que le but est d'établir plutôt, ici par le psalmiste, un contraste, entre deux endroits où l'homme recherche le bonheur. Il dit, heureux l'homme qui ne fait pas un certain nombre de choses, mais qui trouve son plaisir. Il y a un « mais » ici qui établit un contraste entre deux voies, on voit deux manières de rechercher le bonheur, deux choses, deux endroits dans lesquels on peut mettre son plaisir. C'est comme si le psalmiste disait, l'homme heureux ne trouve pas son plaisir ici, verset 1, mais il trouve son plaisir là, et c'est le verset 2. Okay. L'homme heureux ne trouve pas son plaisir dans le conseil des méchants, dans la voie des pécheurs, dans la compagnie des moqueurs, mais il le trouve là, dans la parole de Dieu. Et donc il y a tel plaisir qui est attaché à manière de vivre du verset 1, et puis il y a tel plaisir qui est attaché à la manière décrite au verset 2. Voici donc l'homme réellement heureux. Il ne marche pas selon le conseil des méchants ici. Donc les méchants ne sont pas seulement, bien sûr, ceux qui font des choses abominables, de grands criminels monstrueux. Le méchant, c'est celui qui construit sa vie sans tenir compte de Dieu, tout simplement. Hein. Matthieu 7, 11 dit ici, donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc le méchant sait faire de bonnes choses. Le méchant, ce n'est pas celui qui fait uniquement des mauvaises choses. C'est celui qui mène sa vie, même en faisant de bonnes choses, qui mène sa vie sans se soucier de Dieu, en tenant Dieu à l'écart. Et donc le conseil des méchants, c'est la pensée de l'homme pécheur, les principes qui régissent sa vie. L'apôtre Paul dit que les païens marchent selon la vanité de leur pensée. En Éphésiens 4, 17. Et les pensées modernes, bien, sont les pensées qui gouvernent l'homme aujourd'hui. On a des pensées sur ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme, ce que c'est que le mariage, etc. Beaucoup de choses qui régissent notre société. Une société qui cherche à maintenir Dieu à l'écart. J'écoutais quelque chose aux informations hier et on parlait, bon, avec ces guerres qu'il y a partout, les journalistes discutaient de des sociétés où les gens mettent Dieu en avant. La société américaine, anciennement la société française, où il était dit, Dieu, la patrie, et Dieu, le roi, la patrie, quelque chose comme ça. Et puis il dit, c'est impensable maintenant, dans notre société occidentale moderne, en tout cas en France, de parler de cette manière-là. Dieu, il est maintenant écarté. Et donc, on regarde avec des yeux un peu qui sortent des orbites, les sociétés où Dieu est mis en avant. Parce que l'homme moderne cherche à écarter Dieu de sa sphère. Il ne s'arrête pas, dit le passage, sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire qu'il n'adopte pas le mode de vie des pécheurs, qui sont manifestement la conséquence des principes de vie qu'il poursuivent. Il n'adopte pas son langage, il n'adopte pas sa musique et d'autres choses qu'ils font. Et puis aussi, il dit, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. D'autres traductions disent, il ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. S'asseoir a le sens ici de s'associer ouvertement, en assumant quelque chose. Le psaume 50, verset 19-20 dit, tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Il y a quelque chose de particulier quand on s'assoit pour faire quelque chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on est vraiment dedans. On a pris vraiment position. Il y a une espèce de progression ici. On marche, on s'arrête. Et puis finalement, on participe, on s'associe. On est assis là-dedans. Et donc l'attitude semble ici plus active car on siège parmi ceux qui se moquent ouvertement de Dieu et de la parole de Dieu ici. Donc Dieu dit quelque part que l'homme heureux est caractérisé par le refus d'un mode de vie qui écarte Dieu. Quand il dit « heureux l'homme qui ne fait pas ceci », c'est-à-dire qu'il ne cherche pas son plaisir dans un mode de vie qui écarte Dieu. Bien sûr, cela ne veut pas dire que l'homme heureux n'entretient aucun rapport avec l'homme pécheur, mais ça veut dire qu'il mène une vie qui n'épouse pas les principes généraux qui régissent la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. L'homme juste, l'homme que le psaume décrit ici, est celui qui examine ce qui est agréable au Seigneur, comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 5 et au verset 10-11. Il dit « examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » On examine, on participe à des choses, mais attention, on fait vraiment attention aux choses. Donc, l'homme qui est réellement heureux, je le redis ici, c'est l'homme qui refuse le plaisir d'un mode de vie qui ne tient pas compte de Dieu, qui tient Dieu à l'écart. Alors, le psalmiste ne dit pas qu'il n'y a pas de plaisir dans ce mode de vie-là. il dit que l'homme heureux, il ne cherche pas son, il ne met pas son plaisir là. Parce qu'il y a du plaisir à vivre ce mode de vie. C'est le mode de vie qui nous attire naturellement ici. Et on a parfois tendance à dire à des personnes, ou à dire des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais elles ne sont pas heureuses. Elles ne connaissent pas le bonheur parce qu'elles ne sont pas chrétiennes. La Bible ne parle pas comme ça. Si vous lisez le psaume 73, vous voyez un homme de Dieu qui est dérouté par le bonheur de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et regardez rapidement cela, c'est quelques pages plus loin, psaume 73. Psaume 73, ici, que nous avons même un cantique que nous chantons à partir de ce psaume. Et au verset 1, il dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, dit-il, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant quoi ? Le malheur des méchants ? Non, le bonheur des méchants. Le méchant connaît le bonheur, dit la Bible ici. Hein? Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. C'est-à-dire qu'ils voient même des gens qui vivent sans problème jusqu'à leur mort. Ils ne connaissent pas Dieu, ils vivent sans problème jusqu'à leur mort. Il dit ici, et leur corps est chargé d'embonpoint. Vous comprenez, hein? Il y a de la graisse partout, ça veut dire qu'ils mangent bien, hein? Ici. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Et puis au verset 10, il dit « Voilà pourquoi son peuple se tourne à leur côté, il avale l'eau abondamment. » Et il dit « Comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? » Verset 12 « Ainsi sont les méchants, toujours comment ? Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » C'est extraordinaire ce qu'il dit ici. Hein? Il dit « Les méchants sont toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » Et Dieu ne dit pas « Non, ce n'est pas vrai. Hein? » Ici. Et il dit ici au verset 17 qu'il était dans la difficulté jusqu'à ce qu'il ait pénétré les choses plus profondément. D'accord. Donc quand on regarde comme cela, il ne faut pas croire que le psalmiste, on revient au psaume 1, est en train de dire « Voilà, ça c'est le malheur. » Il dit « Il ne faut pas chercher son plaisir dans une voie où le principe est de mettre Dieu de côté. » Il y a, c'est ça vers quoi on est naturellement attiré. Mais ce n'est pas là qu'il faut mettre son plaisir. Si vous voulez réellement connaître le bonheur que Dieu décrit ici et qui est le seul valable pour l'homme. Si on regarde la fin du psaume, il dit « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » C'est là qu'il faut regarder. Mais dans l'espace temporel, il y a du bonheur, de la joie, d'une certaine joie, chez ceux qui rejettent Dieu. Donc, l'homme heureux, dit le psaume ici, c'est celui qui refuse un mode de vie qui tient Dieu à l'écart, qui refuse de trouver son plaisir dans cela. Mais deuxièmement, il montre que l'homme réellement heureux, c'est celui qui se délecte de la parole de Dieu. L'homme réellement heureux, c'est celui qui se délecte de la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voici, dit Dieu, l'homme heureux. Le voici, je vous le décris. Celui qui rejette une vie sans Dieu et se délecte en se délectant de la parole de Dieu. L'homme heureux est celui donc qui développe une attitude intérieure d'affection pour Dieu et pour sa parole. Et cette attitude d'affection pour Dieu et de sa parole se manifeste extérieurement par le rejet d'une vie qui écarte Dieu. On aurait pu s'attendre à ceci ici, quand le psalmiste écrit hein, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui, etc. » Mais qui marche selon le conseil de Dieu, qui s'arrête sur la voie droite et qui s'assied en compagnie des justes. Ça aurait été, nous semble-t-il, un équilibre correct. Mais ici, ce que le psalmiste veut mettre en évidence, ce n'est pas la différence de deux types de vie, c'est la différence de deux types d'affection. C'est de deux affections, de deux endroits où l'on met son plaisir. Et il décrit donc l'homme réellement heureux par celui qui plonge son affection, qui aime la parole de Dieu, qui développe un amour, un plaisir pour la parole de Dieu. Et ce n'est pas simplement le fait de lire la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement le fait de la parcourir chaque année. C'est le fait de l'aimer vraiment, d'avoir une profonde affection pour la parole de Dieu. Le plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est quelque chose qui est étrange quand même. En général, on ne trouve pas du plaisir dans les lois. Pas si vous trouvez du plaisir dans la loi, vous, hein, mais si quelqu'un, si quelque part, je veux dire, il y a un lieu où on pense ne pas trouver de la joie, c'est bien dans une loi. Un texte de loi, ce n'est pas un texte qui est joyeux, souvent. La loi semble plutôt quelque chose d'oppressif, hein, qui crée plutôt une oppression, hein. Elle est oppressive, elle est contraignante. Pensez aux différentes lois qui régissent notre vie. Hein. Porter le masque, on a eu des lois comme ça. Hein. Ou bien rouler à 50 km/h sur la route. Hein. On dit rarement, oh, comme j'aime rouler à 50 km/h. Je trouve un plaisir fou à faire ça. Je trouve une grâce à porter un masque. C'est vraiment, c'est tellement réjouissant. Hein. Personne ne dit ça, n'est-ce pas? On ne parle pas comme cela à propos des lois. Personne ne prend le code civil et puis dit, oh, quelle merveille, un vrai délice. Hein? Sauf si vous êtes un spécialiste et puis vous trouvez ce que vous pouvez faire. Mais en général, on ne dit pas cela. Si. Et pourtant, le psalmiste dit ici que la loi de Dieu est une loi dans laquelle l'homme heureux, l'homme qui veut véritablement être heureux, trouve son plaisir. Souvent, la loi de Dieu, même parfois pour le chrétien, est vue comme quelque chose de pénible. Hein? On lit, par exemple, Genèse, Exode, et puis on saute le Lévitique. Hein? Parce qu'il y a trop de lois, tu fais ceci, tu prends les rognons, tu à droite, à gauche, c'est une chose. Et on dit, ouh, hein? C'est compliqué à lire tout cela. Et on trouve parfois une certaine pénibilité même à mettre en pratique certaines lois de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et l'apôtre Jean souligne cela. Il dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et il ajoute, « Ses commandements ne sont pas pénibles. » C'est parce que, naturellement, l'homme, il trouve les commandements de la loi de Dieu pénibles. Il dit, mais ils ne sont pas, en fait, pénibles. Et si Dieu dit dans ce psaume, le psalmiste dit, par la part de Dieu, « Voici l'homme qui est heureux, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel », c'est parce que Dieu a fait en sorte que l'homme puisse trouver de la loi dans, de la joie et du plaisir dans sa loi. Le but de Dieu, en dictant la loi, c'est de maximiser le bonheur et la joie de l'homme. Le but de Dieu en dictant sa loi, c'est de rendre plus grand encore le bonheur et la joie de l'homme. Quelle est la principale fin de la vie de l'homme? Nous l'avions dit, rappelez-vous, c'est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. C'est ce que le psaume 73 dit plus bas, on ne l'a pas lu, hein, mais quand il dit, hein, sur la terre, il dit, tout mon plaisir n'est qu'en toi, hein, et de prendre plaisir en Dieu éternellement. Quelqu'un a fait remarquer ceci, il a dit que Dieu n'a pas regardé ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, ce qu'il aime le plus, et puis il a dit, je veux faire des lois qui sont contraires à ça. Comme ça, ouais, et puis, donc, comme ça, non, ce sera non à tout ce qu'il aime. Ce n'est pas comme ça que Dieu a fait les choses. Il dit que Dieu a fait sa loi pour que l'homme puisse y trouver du bonheur. Et la Bible le dit. Je vais juste vous citer, il y a plusieurs endroits, mais je vais juste vous citer dans le Deutéronome chapitre 4 et au verset 39 à 40. Il est dit, « Sache donc en ce jour, le peuple s'apprête à rentrer au pays de Canaan. » Et puis Moïse le dit, « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur, retiens-le, c'est-à-dire mémorise-le, serre-le dans ton cœur, c'est une vérité, que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y a point d'autre. » Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais les jours, tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu observes cette loi afin que tu sois heureux. La loi a été donnée pour que l'homme soit heureux. Qu'il la mette en pratique, qu'il la sert, qu'il aime, soit heureux. Donc Dieu a fait cela en pensant au bonheur de l'homme, pas en cherchant à le contrarier dans tout ce qu'il, aime. Voilà. Chaque précepte de Dieu, chaque loi, chaque commandement a vocation à éloigner l'homme de ce qui pourrait le détourner du vrai bonheur. En ce sens, on pourrait dire qu'il prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Et le psalmiste dit, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Psaume 119, verset 103. C'est là comment il parle de la loi de Dieu. Jérémie, le prophète, dit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je les ai recueillis, je les ai dévorés, et elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ce n'est pas juste qu'il accomplit des choses avec cette loi, qu'il la lit, qu'il se soumet parce qu'il faut le faire. Il dit, je trouve du plaisir, une joie intense. D'accord ? La joie que l'homme peut trouver en suivant la voie des pécheurs, etc., cette satisfaction qu'il peut trouver et que l'on trouve dans ses... Il dit, il la trouve dans la loi de l'Éternel, dans son homme intérieur. Il aime cette loi. Et parce qu'il aime cette loi, il peut se détourner de ce qui est futile. Que l'on trouve dans le monde. Donc Dieu a établi sa loi pour que l'homme puisse y trouver de la joie et du plaisir. Prendre plaisir dans la loi de Dieu, nous dit le verset, il dit, je relis le verset 2 ici, hein, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Comment trouver du plaisir dans la loi de l'Éternel? Qu'est-ce que cela implique? Cela implique aussi de la méditer jour et nuit. Trouver le plaisir dans la loi de Dieu, c'est méditer jour et nuit. La méditation permanente de la parole de Dieu. Le psalmiste explique ici que le plaisir de la loi de Dieu passe par la méditation de la loi de Dieu. Le plaisir dans la loi de Dieu passe par la méditation de la loi de Dieu. Qu'est-ce que méditer ? Méditer, c'est penser. C'est réfléchir. Parfois, j'ai vu dans le dictionnaire, c'est aussi un peu marmonner, grommeler. Quand quelqu'un parle à voix basse, on dit qu'il parle à voix basse. C'est ressasser. Quand quelqu'un revient tout le temps sur la même chose, on dit, mais arrête de ressasser tout le temps les mêmes choses. Hein. On ressasse les mêmes pensées, etc. On fait ça, on le fait tourner dans la tête, on réfléchit avec. C'est ça, méditer. Et il dit que celui qui trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel, il ressasse constamment cette loi dans son esprit.
Et il va chercher à voir ce qu'il peut faire avec cette loi. C'est pas simplement qu'il lit la parole de Dieu, mais il la ressasse, il travaille avec en son esprit jusqu'à ce qu'il puisse faire quelque chose avec. Hein? On pourrait dire. Un peu comme il était dit pour les frères de Joseph, c'est pas si vous vous rappelez, ils ont dit que Joseph leur avait dit, vous avez médité de me faire du mal. Ça veut dire qu'ils ont pensé, réfléchi, mis au point un stratagème pour pouvoir lui faire du mal. C'est comme ça que l'on travaille avec la parole de Dieu si on veut y trouver du plaisir. Et notez qu'il n'est pas question ici d'une méditation de temps en temps, mais c'est une méditation jour et nuit. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que l'on ne dort pas, que le psalmiste ne dort pas, cela ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, mais cela veut dire que la parole de Dieu est constamment dans ses pensées. Il traite avec cette parole tout au long de la journée. Quand il s'endort, il médite. Quand il se lève, il médite. Et quand il a une insomnie, au cours de la nuit, il médite encore. Le psaume 119, 148 dit, « Je devance les veilles de la nuit et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Qu'est-ce que l'on fait quand on se réveille comme ça au milieu de la nuit, puis qu'on n'a plus sommeil? On tourne le bouton de la télé, on regarde un film, on écoute de la musique. Le psalmiste semble dire ici, quand ça lui arrive, eh bien, il y a la parole de Dieu qui vient et il médite avec, il réfléchit. Hein. Comme quelqu'un faisait remarquer, lorsque on se réveille en sursaut, on est effrayé, il y a voilà, des choses qui nous empêchent de trouver le sommeil. Eh bien, on dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, d'accord, etc., etc. Ça revient et on le dit. Et donc, quelque part, pour trouver du plaisir dans la loi de Dieu, il faut la méditer jour et nuit. Et pour la méditer jour et nuit, il faut qu'elle soit constamment avec nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit dans la pensée. Et il faut qu'elle soit mémorisée. Ça, c'est quelque chose qui est d'une extrême importance. Le psalmiste, on va le voir après, il relie l'amour de Dieu, de la loi de Dieu, à la méditation de la loi de Dieu. Psaume 119, 97 dit, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour, voyez encore ?» La même chose, jour et nuit, tout le jour, l'objet de ma méditation. Et vous savez que ce que l'on aime occupe inévitablement notre pensée. Cherchez ce qui vous occupe la pensée le plus souvent et vous aurez inévitablement ce que vous aimez. C'est tout le temps la musique, vous aurez la musique. D'accord ? Si, voilà, quoi que ce soit qui occupe votre pensée continuellement, c'est ce que vous méditez et c'est ce que vous aimez. Donc, prendre plaisir de la loi de Dieu implique donc de la méditer. Et la méditer jour et nuit implique de la voir avec soi et la voir avec soi dans son cœur et dans sa mémoire. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Qu'est-ce que ça veut dire, serrer la parole dans son cœur ? Ça ne veut pas dire prendre la Bible et la serrer contre sa poitrine. On est d'accord, ça veut pas dire ça. Donc, serrer la parole dans le cœur, c'est sceller la parole dans sa mémoire afin que le cœur puisse l'utiliser. On ne peut pas avoir au cœur ce que l'on n'a pas dans la pensée. C'est impossible. C'est impossible. Proverbe, je vous lis Proverbe 3, verset 1 à 3 dit, « Mon fils, n'oublie pas, ça c'est un effort de mémoire, on est d'accord ? N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Voyez ici le lien entre le cœur et la mémoire. Hein. N'oublie pas, garde ça en ta mémoire pour que ton cœur garde mes préceptes. Et puis il ajoute, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, il est toujours avec toi. Écris-les sur les tables de ton cœur. Comment fait-on pour écrire quelque chose sur les tables de notre cœur? Il faut les imprimer dans notre mémoire. C'est le seul moyen. Donc, aimer la parole de Dieu, prendre plaisir en elle, c'est faire l'effort de la voir avec soi partout où on va. Et si on a oublié notre Bible, on a des choses avec nous. Pensons à nos frères qui peuvent être retenus en prison, sans Bible. Comment font-ils? S'ils n'ont pas eu dans leur cœur des passages mémorisés de la parole de Dieu, c'est très difficile. C'est très difficile. Et c'est une résolution que nous pouvons avoir cette année, si nous voulons vraiment être heureux. Trouver le plaisir dans la parole de Dieu en la lisant, oui, mais en faisant l'effort de l'apprendre par cœur, apprendre des passages de la parole de Dieu par cœur. Pourquoi cette méditation? Pourquoi cette rétention de la parole de Dieu dans la mémoire et dans le cœur? Alors, le psalmiste ne donne pas la réponse ici, mais on peut trouver une dans Josué chapitre 1, verset 8, que vous connaissez bien. Il dit, Moïse dit à Josué que ce livre, enfin c'est Dieu je pense qu'il parle, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, donc Dieu parle à Josué, médite-le, encore la même chose, hein, voyez ici, médite-le jour et nuit, et pour quoi faire? Il dit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Les actes justes, on pourrait dire, hein, découlent de la méditation saine de la parole de Dieu. Josué doit méditer continuellement l'Écriture afin d'agir droitement. Il doit travailler avec ça dans son esprit. Il doit le mémoriser, le retenir, afin que cela puisse, il puisse l'utiliser dans ses actes, ici. Il n'y a pas de possibilité d'agir vraiment conformément à la parole de Dieu si on n'a pas aimé, médité, retenu cette parole de Dieu. Quand vous lisez le Deutéronome, par exemple, à un moment donné, Moïse parle au peuple de la part de Dieu et il lui dit ce que devra, quand il aura un roi qui s'établira sur le trône, voilà comment le roi devrait se comporter. Et au chapitre 17 du Deutéronome, nous trouvons ceci, vous n'êtes pas obligé de chercher, mais je vais le lire là, chapitre 17 du Deutéronome, et à partir du verset 18, Deutéronome 17, verset 18. Il dit, quand il... Alors, Dieu parle du roi auparavant, il dit ce qu'il ne devra pas faire, hein, il ne faut pas qu'il ait un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, il ne faut pas qu'il amène le peuple en Égypte, etc. Et puis, il dit au verset 18, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, toute la loi comme il se donne, hein, de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite,
ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui, ses enfants au milieu, et ses enfants au milieu d'Israël. Il la prend. Alors, je ne sais pas si c'était Genèse, Exode, Lévitique. Non, je ne sais pas qu'est-ce que tu devais écrire. Ou si c'était que. Mais il devait l'écrire. Allez, exercice pour demain, vous écrivez le Pentateuque sur un papier. C'est un exercice difficile, hein. Mais Dieu dit, le roi, il va siéger, il va régner, il va diriger, il a besoin de savoir comment se conduire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il écrit. Vous savez, maintenant, on n'écrit plus, hein. On n'écrit plus. Mais écrire, c'est quelque chose, hein, qui permet de retenir, hein. Quand on prend des notes, on retient plus facilement. Quand on n'écrit pas, on ne retient pas beaucoup. On peut être pour ou contre ça, ça n'a rien à voir. C'est comme ça. J'ai des étudiants, et j'écris, je fais tout un exercice au tableau, j'écris, je décortique tout, et puis je dis, mais écrivez. Non. Et puis à la fin du cours, j'en vois qu'ils passent, on sort, et puis ils prennent leur téléphone portable, et ils photographient le tableau. Et je suis sûr qu'ils ne vont jamais regarder le truc. Et puis il y en a d'autres qui sont là, attendez monsieur, ils écrivent tout, ils prennent le temps, etc. Il y a quelque chose qui se fait quand on écrit, hein, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui se fait quand on écrit encore davantage sur les, comme disait le proverbe, comme disait Salomon lui-même, sur les tables du cœur. Quand on imprime dans la pensée, de manière à ce que ça nous revienne. Il y a cet effort que l'on doit faire. Et cette méditation, elle aide à croire, on le voit ici, elle aide à agir conformément à la parole de Dieu. Bien souvent, nous prenons des décisions, nous disons des choses, nous réagissons conformément à ce que nous sommes naturellement, culturellement, parfois, plus que spirituellement. Parce qu'on n'a pas suffisamment la parole de Dieu inscrite dans notre cœur. On n'a pas fait l'effort de la connaître. On n'a pas fait l'effort de la lire bien souvent. Hein. On pose parfois des questions aux gens. Comment vous lisez? Est-ce que vous avez lu? Et puis souvent, on doit reconnaître qu'on dit, c'est pas... Oui, j'avoue que je prie, mais je n'ai pas beaucoup lu. Hein. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Passer une année et puis de se rendre compte qu'on n'a pas vraiment, vraiment, vraiment lu la parole de Dieu. Mais le psalmiste dit, l'homme heureux, c'est celui qui la lit régulièrement, en entier, de la Genèse à l'Apocalypse, et qui fait des efforts pour mémoriser le plus possible ce qu'il peut mémoriser. Et qui travaille avec, qui la médite, de manière à ce que quand il aura une décision à prendre, eh bien, le premier réflexe soit le réflexe qui est imposé par la parole de Dieu. Que ce qu'il va faire soit conforme à la parole de Dieu. Comme on l'a dit la dernière fois, Paul dit à Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que le vieillard doit faire comme ça, parce que ça, c'est conforme à la saine doctrine. Autrement dit, c'est la saine doctrine qui détermine tout ce que l'on doit faire. C'est la parole de Dieu qui détermine tout ce que l'on doit penser, comment je dois parler, comment je dois agir dans toutes les décisions, que ce soit les décisions d'église, que ce soit les décisions personnelles de ma propre vie. Mais ça sera impossible qu'elle le fasse si je ne me soumets pas à la discipline de la lecture, de la méditation et de la rétention de cette parole. Ce sera impossible. Ce qui viendra, ce sera le conseil des méchants, la voix des pécheurs et le siège des moqueurs. Si je ne cherche pas à trouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc ce qui est en jeu ici, comme l'a dit quelqu'un, c'est de faire de l'Écriture le filtre et le juge de tous mes courants de pensée. Ce qui est important ici, c'est de faire de l'Écriture le filtre et le juge de tous mes courants de pensée. Voici donc l'homme réellement heureux. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas développer les autres. Il y a
trois illustrations qui sont données après, mais on pourra éventuellement une autre fois. Voici l'homme réellement heureux, c'est celui qui refuse de trouver son plaisir dans un mode de vie qui écarte Dieu. Et c'est celui qui se délecte de la parole de Dieu. En la méditant, en la retenant et en l'aimant profondément. Alors, quelle résolution pour 2024 ? Je vous en propose une, c'est que nous fassions de la parole de Dieu notre plaisir. Que nous trouvions notre plaisir dans la loi de l'Éternel, jour et nuit. Ça, c'est une résolution que nous pouvons prendre. Ne pas sacrifier le bonheur éternel sur l'autel du plaisir temporel. Ne pas sacrifier le bonheur éternel sur l'autel du plaisir temporel. Il y a du plaisir dans le conseil des méchants. Il y a du plaisir dans la voix des pécheurs. Il y a du plaisir sur le siège des moqueurs. Et nous ne devons pas aller dans cette voie-là. Nous pouvons y trouver. Si nous y allons, nous allons trouver du plaisir. Mais ce plaisir se termine par la ruine, dit Dieu. Car la voie des pécheurs mène à la ruine. Le plaisir dans la loi de l'Éternel amène à cette connaissance que l'on a avec Dieu. Cette félicité que l'on peut partager avec lui. Et puis je voudrais ajouter ceci aussi. C'est que le réel bonheur, nous dit ce psaume, pas directement, mais il nous le dit quand même, que le réel bonheur est en Jésus-Christ. Et c'est en lui qu'il faut trouver son plaisir. Je relis le texte de 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 5. Il dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Parfois on dit « J'aime Dieu ». Si on dit « Qui c'est qui aime Dieu ?»« J'aime le Seigneur ». Je pense que presque toute la salle lèverait la main ici. Mais Dieu dit ce que c'est que de l'aimer. Et lui, il ne se trompe pas. Il dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ah, on commence à filtrer là, ici, un peu. Est-ce que je garde ses commandements? Ah, je les lis. Non, il ne dit pas. Il dit, garder, ce n'est pas lire. Garder, c'est aimer. Garder, c'est méditer. Garder, c'est trouver du plaisir dans cette loi. Garder, c'est avoir une vie façonnée par cette loi, des comportements façonnés par cette loi, des paroles façonnées par cette loi de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Les trouvez-vous pénibles? C'est que vous ne les gardez pas, si vous les trouvez pénibles. Il dit, ils ne sont pas pénibles. Et il ajoute, pourquoi ils ne sont pas pénibles? Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ah, ils sont pénibles, les commandements de Dieu. C'est plus facile, la voix des pécheurs, le conseil des méchants, le siège des moqueurs, c'est plus facile. Et l'apôtre Jean dit, non, il dit, ils ne sont pas pénibles, les commandements de Dieu. Il dit, car tout ce qui est né de Dieu a triomphé du monde. Et il ajoute ceci, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais notre foi en quoi, en qui? Notre foi en Jésus-Christ, bien sûr. Il ajoute encore, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez ça, ces commandements ne sont pas pénibles pour ceux qui ont triomphé du monde. Pour ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu sont ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Et trouver du plaisir dans la loi de Dieu est impossible avant de connaître véritablement Jésus-Christ. C'est à lui qu'il faut venir. Donc quelque part implicitement, le psaume dit cela ici. Il dit qu'il faut venir à Jésus-Christ pour trouver du plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce qu'il transforme notre cœur, il donne un cœur nouveau. Il dit dans Jérémie, je ferai en sorte que vous observiez mes lois. C'est lui qui œuvre en nous, c'est lui qui mène cette œuvre en nous par son esprit. Et donc, Si vous voulez être heureux, vous êtes dans cette salle ce matin. Dieu dit que le seul moyen de connaître le véritable bonheur, le réel bonheur, c'est de venir à Jésus-Christ dans la foi et dans la repentance. Et si vous êtes un enfant de Dieu déjà, eh bien, demandons pardon à Dieu pour cette année que nous avons passée, peut-être en négligeant plus ou moins sa loi. Et demandons-lui vraiment un cœur qui désire, de mettre en nous ce désir de lire sa parole, de la lire déjà, entièrement et régulièrement, de la méditer, de prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir avec, de chercher chaque fois que quelque chose se passe dans notre vie, comment je dois répondre à cette situation d'une manière conforme à la loi de Dieu, parce que j'aime cette loi et je veux qu'elle soit mon guide dans cette situation. C'est ainsi que l'enfant de Dieu doit réfléchir et c'est ainsi qu'il connaît le véritable bonheur. C'est ainsi qu'il peut être heureux quand il voit que dans tous les aspects de sa vie, la loi de Dieu est celle qui régit toutes choses. Ceux qui sont nés de Dieu par la foi en Christ peuvent trouver leur désir dans la loi de Dieu et dans sa parole. Êtes-vous en Christ? Êtes-vous en Christ? Dieu dit, c'est la résolution que vous devez prendre cette année, de venir à lui dans la foi. Vous êtes en Christ. Dieu dit, la résolution que vous devez prendre est celle d'aimer ma parole et de m'aimer à travers ma parole. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Oui, tu nous décris l'homme heureux. Et nous te prions que nous puissions venir à toi dans la foi, dans la repentance, dans la confession pour tous nos manquements, nos fautes, nos péchés. Et que tu nous donnes dans cette nouvelle année qui s'ouvre ce saint désir de te connaître à travers ta parole, de lire ta parole, mais non seulement de la lire de manière mécanique ou par devoir, mais d'y venir avec la joie, l'allégresse, d'y trouver le vrai bonheur, le vrai plaisir que tu mets en nous par ton Esprit Saint. Nous te prions que tu attires encore ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils viennent à toi et connaissent ce véritable bonheur qui se termine à la félicité avec toi. Merci encore pour ta parole et accomplis ton œuvre en chacun de nous par ton esprit. Amen.